Bienvenue à tous sur France Culture, il est midi et demi. L'heure du journal avec Antoine Maret. Bonjour Antoine.
Bonjour Olivia, bonjour à tous. Emmanuel Macron détaille son plan handicap à l'Élysée avec un objectif qu'il n'y ait plus d'enfants en situation de handicap sans accompagnateur à la rentrée. Nous ferons le point dans un instant.
Invité de ce journal également, le député LREM Bruno Studer. Il préside la commission des affaires culturelles de l'Assemblée nationale. Il est à l'origine d'un projet de loi visant à encadrer les vidéos sur Internet mettant en scène des mineurs plaçant des produits pour des marques.
Dans l'actualité internationale, ces tensions ce matin à Beyrouth, aux abords du Parlement, les forces de sécurité libanaises ont tiré des gaz lacrymogènes et des canons à eau pour disperser des manifestants qui s'opposent à la feuille de route du gouvernement.
Les premiers mariages entre personnes du même sexe se tiennent aujourd'hui en Irlande du Nord. Le Pax était autorisé depuis 2014, mais pas le mariage, alors qu'il était permis dans le reste du Royaume-Uni.
Et puis nous reviendrons bien entendu sur la disparition de Claire Bretéché à 79 ans, célèbre auteur de BD qui avait notamment dessiné pendant des années Les Frustrés et Agrippine. Elle avait reçu en 82 le Grand Prix du Festival d'Angoulême. Midi 55, la grande table des idées avec vous, Olivia Gesbert.
Alors que son procès en extradition doit s'ouvrir à Londres dans deux semaines, Julian Assange, figure d'un nouvel ordre mondial. Nous en parlerons avec notre invité, l'avocat et essayiste Juan Branco, qui signe aux éditions du Cerf Assange, l'anti-souverain.
A tout à l'heure. C'était l'un des points importants de sa campagne lors de la présidentielle. Le candidat Macron avait érigé la cause des personnes en situation de handicap comme l'une des priorités de son futur quinquennat. Et le président Macron a aujourd'hui rendez-vous avec cette promesse. Il préside aujourd'hui à l'Élysée une conférence nationale du handicap, un événement organisé à mi-mandat pour tirer un premier bilan des mesures décidées depuis 2017 et pour faire le point sur ce qu'il reste à faire d'ici 2022. Bonjour Laura Dulieu.
Bonjour.
Vous êtes pour nous en direct de l'Élysée, l'Élysée où Emmanuel Macron vient de s'exprimer. Y a-t-il eu des annonces, Laura ?
Oui, trois grands objectifs fixés par Emmanuel Macron. D'abord, plus aucun enfant en situation de handicap sans solution de scolarisation dès la rentrée prochaine. Le président souligne que leur nombre a été divisé par deux depuis 2017. De 15 000 enfants sans solution, on est passé à 8 000. L'objectif est donc de tomber à zéro pour septembre 2020. Et pour ça, Emmanuel Macron promet de recruter des accompagnants. Ils seront 66 000 fin 2020, soit 11 000 de plus depuis 2017. Recruter des accompagnants donc, mais aussi sécuriser leur statut. Et le forfait de diagnostic de l'autisme sera également étendu jusqu'à 12 ans. Deuxième grand objectif formulé par le président, d'ici 2021, aucune personne en situation de handicap laissée seule dans sa recherche de solutions. Pour cela, un numéro unique sera instauré dès janvier 2021, le 360. L'idée est de coordonner tous les acteurs sur le terrain. Une garantie de traitement des demandes va aussi être mise en place, 3 mois maximum. Et les droits à vie devraient aussi se multiplier. Il s'agit là d'endiguer le départ chaque année de 500 adultes qui ne trouvent aucune solution en France. Et par ailleurs, le président affirme que l'allocation aux adultes handicapés ne sera pas diluée dans le revenu universel d'activité. Et enfin, le troisième grand objectif fixé par Emmanuel Macron, c'est de permettre à chacun une vie digne. Et ça passe notamment par le droit de se paxer, se marier, divorcer, d'avoir des enfants, en référence notamment à l'accompagnement à la sexualité, pour lequel Sophie Cluzel a saisi le Conseil consultatif national d'éthique. C'était ce week-end.
Merci à vous, Laura Dulieu. Les députés de La République En Marche rectifient le tir au sujet du congé pour deuil d'enfant. Ils avaient provoqué un tollé il y a 10 jours en refusant d'allonger ce congé de 5 à 12 jours. Ce matin, le député Mounir Majoubi a annoncé la proposition des parlementaires à LREM de porter ce congé à 3 semaines. Bonjour Pierre Neveu.
Bonjour.
3 semaines au lieu de 5 jours et pour tous les actifs salariés du privé, fonctionnaires, artisans indépendants et agriculteurs.
Oui, l'erreur devait être corrigée rapidement. 10 jours après le tollé suscité par le refus d'allonger la durée du deuil parental, 4 députés de la majorité ont donc rencontré des responsables d'associations et partenaires sociaux pour rédiger ce qu'ils appellent un plan d'action global. Plan qui a été soumis à leurs collègues marcheurs ce matin en réunion de groupe à l'Assemblée. Plan avec comme mesure phare un congé universel de 15 jours ouvrés pour tous les actifs salariés du privé, de la fonction publique indépendant, financé par la solidarité nationale et qui prend également en compte l'accompagnement psychologique des parents. C'est le député de Paris, Mounir Majoubi, qui porte aujourd'hui ses propositions pour tourner la page de ce que l'on peut appeler le fiasco désastreux pour le groupe majoritaire.
Vraiment, notre ambition maintenant, c'est que tout le monde puisse aller ensemble dans le chemin de cette loi, qu'on puisse la voter, qu'elle soit votée au Sénat, mais qu'il n'y ait plus de combat politique autour d'un sujet qui nécessite l'union.
C'est donc un appel général à la mobilisation qui est lancé aujourd'hui par l'ancien secrétaire d'État au numérique pour répondre en quelque sorte au président de la République qui avait appelé les députés à faire preuve d'humanité, ce qui avait été perçu comme un reproche injuste par les députés de la majorité.
Alors cette annonce intervient alors qu'Emmanuel Macron doit recevoir ce soir à l'Élysée les députés LREM, Modem et Agir pour tenter d'apaiser le ressentiment d'une partie de la majorité qui a atteint son paroxysme au moment de cette crise au sujet du deuil parental.
Oui, le malaise est grand dans les rangs de la majorité. Les députés ont été blessés par les mots du chef de l'État, blessés de passer pour de simples godillots dans l'hémicycle sur le simple fait d'avoir appliqué les consignes du gouvernement. Mais les raisons de ce malaise sont peut-être bien plus profondes. Le doute s'est installé depuis la crise des Gilets jaunes. Il s'est creusé avec la réforme des retraites, difficilement lisible dans l'opinion public. À cela s'ajoute un contexte de violence contre les élus de la majorité et un sentiment de défiance amplifié à quelques semaines des municipales. Le besoin est donc grand de retisser le lien entre le président et les députés. La rencontre de ce soir à l'Élysée est opportune, souligne Richard Ferrand, le président de l'Assemblée nationale. C'était ce matin sur France 2.
Je crois que le président de la République a envie d'écouter les députés de sa majorité, et ça tombe bien, ils ont envie d'être entendus.
Il y a donc besoin de rapprocher les points de vue, surtout lorsqu'au fil du temps, les députés marcheurs quittent le navire. Ils sont ainsi une dizaine à avoir quitté le groupe majoritaire. Mais cet exercice de câlinothérapie a ses limites. Il devrait également s'accompagner d'un rappel à la discipline, à l'unité et à la cohésion.
Bonjour Bruno Studer.
Bonjour.
Vous êtes député LREM. Est-ce qu'il y a des choses à réparer entre Emmanuel Macron et sa majorité?
Il y a des choses à discuter, sans aucun doute. Et c'est pour ça qu'il est bien que l'on ait de temps en temps l'occasion d'en parler avec le président de la République.
Alors on va vous retrouver dans un instant pour la séquence interview de ce journal. En attendant, on va parler de Mayotte qui souffre d'un problème majeur d'accès aux services publics et aux droits. C'est ce que le défenseur des droits affirme. Jacques Toubon dénonce une certaine légitimation de déni de droit, pourtant flagrant. Il vient de remettre un rapport réalisé après une mission menée en octobre dernier. Bonjour Adrien Taufollet.
Bonjour.
Selon Jacques Toubon, les droits fondamentaux comme les droits à l'éducation, la sûreté, la santé, vivre dans des conditions décentes ne sont pas effectifs à Mayotte.
Effectivement, sa mission s'est concentrée sur trois secteurs. L'accès aux soins, les atteintes aux droits de l'enfant et les droits des étrangers. D'abord, le 101e département français souffre d'infrastructures insuffisantes et défaillantes. Au niveau du secteur de la santé, par exemple, il n'y a qu'un seul hôpital et malgré un investissement financier de l'État, 172 millions d'euros pour l'agrandir, l'établissement est sous-équipé et en manque de personnel. Et impossible de se décharger sur la médecine de ville. Il y a 20 généralistes pour l'ensemble de l'île, ça représente 12 500 personnes par médecin. Au niveau de l'éducation, même lacune, malgré des ouvertures de classe, 40% des écoles de l'île fonctionnent sur la base d'un système de rotation, une moitié des élèves le matin et l'autre moitié l'après-midi. Plus inquiétant encore, aucun recensement des enfants en âge d'être scolarisés n'est effectué. Il n'existe aucun chiffre officiel sur la non-scolarisation des enfants à Mayotte, s'alarme le défenseur des droits. De façon plus générale, la fourniture en énergie est insuffisante sur l'île, tout comme l'approvisionnement en eau, les routes sont peu nombreuses et mal entretenues, les transports en commun sont inexistants. Ensuite, et c'est lié, l'île manque d'attractivité, le coût de la vie y est très élevé, plus 42% par rapport à la métropole. Pour les produits alimentaires comme le lait, le fromage, les yaourts, un taux de chômage autour de 35%, on tombe alors dans un cercle vicieux. Manque d'attractivité, difficulté à recruter, services publics déficients et saturés. Une situation par ailleurs aggravée par la gestion des flux migratoires par l'État. 125 000 habitants sont étrangers, près d'un habitant sur deux de l'île. Pour l'État, cette immigration est la cause des dysfonctionnements dans les services publics, une menace à l'équilibre social de l'île. Ce n'est pas un hasard de voir la préfecture de Mayotte, le jour de la publication de ce rapport, dévoiler les chiffres des reconductions à la frontière. 27 000 en 2019, plus 39% en deux ans. Une réponse dont l'efficacité laisse perplexe le défenseur des droits, qui souligne que de pointer la faute sur les étrangers augmente le risque de creuser des clivages, d'attiser les tensions sociales déjà présentes sur l'île.
Merci Adrien Taufollet. Ils sont parmi les stars de YouTube et Instagram et cumulent des millions d'abonnés et des milliards de vues. Des petites familles, à commencer par leurs enfants de moins de 16 ans, qui partagent en vidéo leurs découvertes, des jouets, des gadgets ou des parcs d'attractions en tout genre, le plus souvent une foire aux marques et aux placements de produits que souhaite désormais encadrer un député. Ce député, il est avec nous, c'est donc Bruno Studer, invité de ce journal. Vous êtes élu La République En Marche du Bas-Rhin et vous présidez la commission des affaires culturelles de l'Assemblée nationale. Vous êtes donc à l'origine de cette proposition de loi présentée à la fin de l'année dernière. Dans l'intitulé de ce texte, vous parlez de véritables enjeux de société. En quoi ces vidéos sont un enjeu de société ?
C'est un enjeu de société parce qu'on va rappeler quand même que la République sociale s'est construite sur le droit du travail et sur notamment l'interdiction du travail des enfants, sauf dérogation. Et que je pense que c'est aujourd'hui, dans une société marquée par l'émergence de l'Internet, à une vitesse qui est assez vertigineuse, l'occasion de rappeler que Internet n'est pas un espace de non-droit et que les droits des enfants qui existent lorsqu'ils font du cinéma ou de la chanson, ils doivent être aussi en vigueur lorsqu'il s'agit d'enfants qui font des vidéos sur Internet et sur des plateformes de partage de vidéos en ligne.
Question d'Éric Chabroux.
Bonjour Bruno Studer, je ne citerai pas de nom pour éviter la publicité, mais est-ce que d'abord on pourrait avoir une idée de ce que ça représente ce marché, si je puis dire, combien d'enfants font ces publicités, ces vidéos en tout cas?
Alors aujourd'hui c'est un des enjeux, c'est qu'on a une connaissance relativement limitée du phénomène. Ce qu'on sait, c'est qu'on a plusieurs cas dans lesquels les parents ont arrêté de travailler pour se consacrer entièrement à l'activité de tournage, de mise en ligne, de scénarisation de ces vidéos. Et donc ça veut dire qu'il y a pour certains parents plusieurs dizaines de milliers d'euros par mois qui sont générés par cette activité. Donc c'est aussi l'objet de la proposition de loi, c'est qu'à terme on ait une meilleure connaissance de ce phénomène, parce que tout simplement on aura des outils, qu'ils soient administratifs ou judiciaires, pour encadrer cette activité.
Ça veut dire qu'aujourd'hui il y a un vide juridique, la réglementation qui concerne, on le sait, qui est très précise, oui. Hein, qui concerne le cinéma et la télévision, ne correspond pas, n'est pas adaptée.
Exactement, elle n'existe pas pour les enfants qui font ces vidéos. Alors pour plusieurs raisons. D'abord, c'est que dans le cadre d'un film, vous avez un producteur qui passe un contrat avec les parents justement, qui ont l'autorité parentale sur l'enfant. Là, ce sont les parents qui directement font travailler leur enfant. Et puis après, on a un deuxième vide juridique, qui est que la situation de travail qu'on définie notamment par l'existence de consignes, elle n'est pas facilement établissable dans certains cas. Vous pouvez filmer votre enfant dans sa vie quotidienne, poster cette vidéo, la monétiser, c'est-à-dire négocier avec la plateforme une partie des revenus publicitaires qui sont générés par les visionnages, et puis faire du placement de produits.
Alors que dans le texte, très précisément, qu'est-ce que vous prévoyez ? Il est notamment question aussi du droit à l'oubli.
Alors il est aussi question du droit à l'oubli, parce que je dis toujours que à la tentation de la viralité, il faut privilégier l'intimité de l'enfant. Et qu'à un moment donné, cet enfant, il n'a pas forcément envie, quand il est au collège ou même dès l'école primaire, de se voir dans des situations dans lesquelles peut-être ses parents lui changeraient ses couches parce qu'ils avaient fait un contrat de placement de produit avec une marque de couches. Et donc, il faut donner cette possibilité. Donc, concrètement, il y a l'extension du régime protecteur des enfants du spectacle aux enfants qui font des vidéos sur YouTube dans le cadre de relations de travail clairement établies. Il y a l'article 3 qui va permettre d'encadrer les situations où on a du mal à dire que c'est du travail, mais c'est plus du loisir non plus. Et c'est là que c'est absolument passionnant, le travail, quand on parle d'Internet. Moi, j'étais rapporteur de la proposition de loi pour lutter contre la manipulation d'information. Donc, on a un espace qui, effectivement, est un espace aujourd'hui gris. Et pour autant, il faut protéger les enfants. C'est leur intérêt supérieur qui est en jeu. Le droit au loisir, le droit au consentement, le droit à l'instruction. Et bien entendu, le droit de profiter, lorsqu'ils sont majeurs, des revenus qu'ils auront générés par leur activité.
Avec un mot-clé, c'est la responsabilité. Pour ce qui est de la responsabilité des parents, parce que comment un enfant peut ne pas obéir à ses parents si ses parents le mettent en scène?
Et bien c'est la même façon que pour un enfant qui vous voulez que votre enfant fasse un casting, etc., soit ensuite sur un tournage, et bien on va vérifier que l'enfant est consentant, on va vérifier quel est l'impact psychologique de cette activité. C'est une commission départementale qui le fait aujourd'hui pour les enfants qui ont ces activités-là. Et bien demain, ça sera le cas aussi pour ces enfants qui participent à ces vidéos, qui, pour le coup, ont des millions d'abonnés, vous l'avez dit, parfois génèrent des milliards de vues. Vous imaginez l'exposition de ces enfants. Aujourd'hui, il faut mettre effectivement de la responsabilité, d'abord celle des parents, mais pas seulement, celle des plateformes aussi, celle des entreprises. D'ailleurs, je me réjouis, c'est très marrant, parce que hier, je vois tomber une dépêche sur mon bureau avec la Fédération des jouets de la puériculture qui dit qu'ils ont élaboré une charte pour les entreprises qui font du placement de produits chez les kids d'influenceurs. Donc, vous voyez, c'est avant même que la loi existe, elle a des effets, c'est formidable.
Mais elle n'arrive pas trop tard, cette loi, tout de même. Ça fait au moins 4 ans que ça existe, ces vidéos.
Elle n'arrive pas trop tard. Alors, vous savez comme moi que le temps législatif, il est très très long. Il vaut mieux tard que jamais, on va toujours dire ça comme ça. Et puis ensuite, vous savez, par rapport à Internet, ça va tellement vite qu'on a effectivement du mal à toujours réagir. Et encore une fois, c'est des vrais défis à notre travail de législateur, parce que la zone grise dont je parlais tout à l'heure, c'est plus vraiment du travail, mais c'est plus vraiment du loisir. Comment est-ce qu'on l'encadre avec des principes qui sont à valeur constitutionnelle et conventionnelle, comme le droit à la liberté individuelle, l'autorité parentale, et puis le droit aux enfants de voir leurs intérêts supérieurs être protégés. Donc c'est un vrai défi pour le législateur aujourd'hui, que effectivement de mettre en place des règles pour Internet avec des entreprises qui sont pas de droit français. Il faut toujours le rappeler. La principale plateforme de partage en vidéo, c'est YouTube. C'est une entreprise de droit américain
qui coopère.
Qui coopère, oui, parce que je crois que encore une fois, il s'agit ici de rappeler qu'on veut interdire le travail des enfants, sauf dérogation. Donc on donne ici un cadre légal, donc c'est sa vocation à effectivement rassurer et les parents et les entreprises type plateforme et les entreprises qui font du placement de produits.
Merci.
Merci beaucoup Bruno
Studer. Merci à vous Bruno Studer, merci également à Éric Chavroux et Hélène Langlois à la technique. Le procureur de Paris annonce un appel à témoins pour retrouver des victimes dans le cadre de l'enquête ouverte pour viol sur mineur de moins de 15 ans visant Gabriel Mazneff. L'enquête avait été ouverte par le parquet le 3 janvier dernier, au lendemain de la parution du roman autobiographique Le Consentement, dans lequel l'éditrice Vanessa Springora dénonçait sa relation sous emprise avec l'écrivain quand elle était mineure dans les années 80. Selon Remy Yates, l'enquête s'attachera à identifier toute autre victime éventuelle ayant pu subir des infractions de même nature sur le territoire national ou à l'étranger. Dans l'actualité internationale, ces tensions ce matin à Beyrouth, aux abords du Parlement. Les forces de sécurité libanaises ont tiré des gaz lacrymogènes et des canons à eau pour disperser des manifestants. Ces derniers, plusieurs centaines, tentent d'empêcher l'accès au bâtiment des députés qui doivent étudier la feuille de route du gouvernement avant un vote de confiance. Sur place, le récit de Clotilde Bigot.
Cela faisait longtemps que le centre-ville de Beyrouth n'avait pas connu une si forte mobilisation. Ce mardi matin, plusieurs centaines de personnes se sont mobilisées dès 6h du matin afin de bloquer les différents accès au Parlement pour tenter d'empêcher les convois des députés d'accéder à la place de l'Étoile où se trouve son siège. Des manifestants de toutes confessions des quatre coins du Liban se sont ainsi réunis pour crier « pas de confiance ». Nadine est chirurgien-dentiste, très actif dans les manifestations, il est arrivé dès 4h du matin.
Ce sont les partis politiques qui ont nommé les ministres. Donc on est contre et on ne veut pas ça. C'est la même corruption, c'est la même classe politique.
Lucien Borgeilli est réalisateur et activiste. Les manifestations d'aujourd'hui sont une réussite pour la révolution qui semble encore bien vivante selon lui.
La présence de toutes ces personnes dans la rue aujourd'hui est un signal clair que le peuple est contre ce gouvernement.
Mais le gouvernement a envoyé un message clair aux manifestants. Du côté des forces de l'ordre étaient présents les CRS, les gendarmes ainsi que les forces spéciales, plutôt habitués au terrain de guerre ou de libération d'otages. Un affront à la démocratie pour le militant.
Quand tu utilises l'armée et la force, c'est un signe clair que c'est un régime militaire et non une démocratie.
Le nouveau gouvernement devrait obtenir la confiance du Parlement aujourd'hui ou demain.
C'est aujourd'hui que le président de l'autorité palestinienne doit prendre la parole à l'ONU pour dénoncer le plan Trump censé établir la paix entre Israéliens et Palestiniens. Un plan qui va à l'encontre des revendications palestiniennes. Du coup, Mahmoud Abbas tente de mobiliser le monde entier, mais même en Cisjordanie, le dirigeant âgé de 84 ans a du mal à convaincre. Frédéric Mettezo s'est rendu à Naplouse, la grande ville du nord de la Cisjordanie, où la population se répartit entre un soutien timide et une franche hostilité au vieux raïs.
Dans la vieille ville et dans le souk de Naplouse, des draps noirs pavoisent les rues. Après la révélation du plan Trump, les Palestiniens portent le deuil. Mais Azam est d'abord en colère contre l'autorité palestinienne et son président.
Depuis les accords d'Oslo en 1993 et jusqu'à aujourd'hui en 2020, qu'est-ce qui s'est passé? Donc salut et rentre chez toi.
Rahda sort de l'université où elle étudie la psychologie. Elle n'est pas certaine que Mahmoud Abbas et les autres dirigeants palestiniens soient les mieux placés pour lutter contre le plan Trump.
Les meilleurs dirigeants, oui, à peu près. J'ai confiance en eux pour faire obstacle au plan à New York, si Dieu le veut. Il va y arriver contre le plan de Trump, si Dieu le veut.
Dans sa boutique de meubles, Mohamed constate le blocage. Ni la violence, ni la négociation n'ont débouché sur un État palestinien.
On ne peut pas se battre par les armes, car on est pacifiste. Et puis, qu'est-ce qu'on peut faire contre Israël? Ils ont les États-Unis, ils ont des avions. Nous, tu nous vois, nous sommes des gens simples, des gens de paix.
Azam ne croit pas à un soulèvement. Il explique que l'intifada ne pourra pas revenir comme en 1987, car les gens ont perdu l'espoir.
Les premiers mariages entre personnes de même sexe se tiennent aujourd'hui en Irlande du Nord. Le PAC s'était autorisé depuis 2014, mais pas le mariage, alors qu'il était permis dans le reste du Royaume-Uni. Emeline Vin rencontrait les deux premières mariées.
Fiancés depuis 5 ans, Charlie Edwards et Robin Peoples, 27 et 26 ans, n'avaient pas prévu d'être le premier couple homosexuel à passer devant le maire. Robin Peoples.
On voulait se marier le jour de notre 6e anniversaire. On avait les papiers pour un partenariat civil et puis la loi a été votée en septembre. Et l'agent d'état civil nous a dit « Vous êtes les premières enregistrées ».
Robin a toujours vécu à Belfast. Charlie, elle, a grandi à Brighton.
En Angleterre, on n'imagine même pas que l'Irlande du Nord n'est pas comme nous. Quand je suis arrivée ici, j'ai trouvé ça incroyable. On était discriminés, pour être honnête, parce qu'on n'était pas considérés comme les couples hétéros.
Jusqu'ici, la seule option, c'était le PAX. Pour les activistes, comme Patrick Corrigan, c'est l'aboutissement de 7 ans de campagne.
On a tous le droit de ne pas être discriminés. C'est symbolique de la place des LGBT dans une société.
Il représente Amnesty International. Et même si la société nord-irlandaise est encore très religieuse, il estime que ce sont les politiques les responsables de ce retard.
La société nord-irlandaise a beaucoup changé ces dernières années. Une majorité significative est en faveur du mariage pour tous. C'est l'une des bizarreries de la politique ici. Une minorité de politiciens ont le pouvoir de bloquer certaines mesures, même si elles ont le soutien de la population. Mais ils ne sont pas représentatifs.
Finalement, Londres a légiféré à la place du Parlement régional. Prochaine étape désormais, l'ouverture du mariage religieux aux couples de même sexe.
La côte est des États-Unis se réveille et le New Hampshire va bientôt commencer à voter pour la primaire démocrate. Les bureaux de vote ouvrent à 7h, heure locale. C'est le deuxième État à voter après le fiasco de l'Iowa. Bernie Sanders part avec une longueur d'avance dans cet État qu'il avait remporté à plus de 60% face à Hillary Clinton il y a 4 ans. Mais en embuscade, il y a le nouveau chouchou de cette primaire, le Benjamin de la campagne, Pete Buttigieg. Isabelle Raymond est notre envoyée spéciale dans le New Hampshire. Elle l'a suivi en campagne.
On reconnaît un meeting de Buttigieg à la longue file d'attente qui se forme devant. Ici à Nashua, dans le sud du New Hampshire, bonnet Pete sur la tête, Cheryl est venue du Massachusetts voisin pour l'écouter. J'aime le fait qu'il veuille rassembler au lieu de diviser, dit-elle. J'aime ses idées, il est intelligent, il est calme. C'est ce dont on a besoin en ce moment.
Go Pete.
Il y a tellement de monde que tous ne rentreront pas dans le gymnase de l'école élémentaire. Ils suivront le meeting depuis une autre salle. En bras de chemise, Pete Buttigieg prend le temps de venir leur dire quelques mots au micro. Dans l'assistance, Rick et Caroline. Ils viennent d'un petit village du sud du New Hampshire, vont voter aujourd'hui et veulent être certains de prendre la bonne décision. On penche plutôt pour Pete, mais on ne sait pas encore si on va faire notre choix en fonction de qui serait le meilleur candidat pour battre Trump ou qui ferait le meilleur président. C'est pas évident, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. C'est le premier meeting auquel on assiste. Et son mari ajoute le fond de leurs pensées. Les Américains sont-ils prêts à voter pour un candidat qui assume son homosexualité?
La disparition de Claire Bretéché, cette célèbre auteure de BD avait notamment dessiné dans Le Nouvel Observateur pendant des années Les Frustrés et Agrippine. Elle avait reçu en 82 le Grand Prix du Festival d'Angoulême. Claire Bretéché avait 79 ans. On revient sur son parcours avec vous, Antoine Guillot.
Bonjour Antoine. Bonjour. Oui, Roland Barthes voyait en elle, en 1976, la sociologue de l'année. Et c'est en effet, vous l'avez dit, par le succès colossal des Frustrés, sa série hebdomadaire du Nouvel Observateur de 1973 à 1981, que Claire Bretéché est devenue la première star féminine de la bande dessinée française. Elle y croquait dans ses Frustrés avec ce dessin nerveux et souple, faussement simple, qui lui venait des grands dessinateurs anglo-saxons, et son sens absolument génial du dialogue et de l'invention verbale, retranscrit dans son inimitable écriture cursive les travers et les vacuités langagières de la bourgeoisie intellectuelle parisienne, ce qu'on n'appelait pas encore les bobos, c'est-à-dire les lecteurs même de l'hebdomadaire qui adoraient se reconnaître dans ce portrait grinçant. Avec cette série et dans les suivantes, comme Agrippine sur les adolescents, immense succès là encore, ou Les Mères, ou encore Docteur Ventouse Bobologue, elle a pu aborder des sujets alors tabous en bande dessinée et encore d'actualité aujourd'hui, les inégalités professionnelles et l'esclavage domestique, la contraception et l'avortement, la maternité et la fécondation in vitro et tant d'autres encore. Féministe sans être militante, même si on lui doit en 1976 une affiche du mouvement pour la liberté de l'avortement et de la contraception, Claire Bretécher fut une pionnière de la conquête par les femmes d'une place dans la bande dessinée, forme artistique longtemps exclusivement masculine, seule femme à travailler pour Spirou et Tintin dans les années 60, seule femme membre de la rédaction de Pilote qu'elle contribuera à faire entrer dans l'âge adulte, première dans ce journal à représenter autrement les femmes dans sa série Cellulite, cofondatrice encore avec Gottlieb et Mandrika de l'Écho des Savanes en 1972 et vous l'avez dit, première lauréate du Grand Prix d'Angoulême en 1982. Elle aura ainsi ouvert la voie et influencé nombre de ses successeurs.
Merci beaucoup à vous Antoine Guillot. Cet après-midi, le temps sera variable sur la moitié nord, alternance de nuages de pluie et d'éclaircies, beau temps sur les côtes méditerranéennes et temps maussade sur le reste du pays. Les températures iront de 4 degrés à Nancy à 17 degrés à Nice en passant par 7 à Paris. C'est la fin de cette édition préparée avec Nicolas Paumet. Prochain journal à 18h avec Stanislas Vazac.